Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Histoire naturelle. Alors aujourd'hui, cet épisode-ci a été enregistré il y a très longtemps, je crois à la fin de l'année 2020. Donc vous voyez, ça fait assez longtemps que j'ai mis entre parenthèses ce podcast. Mais j'avais décidé de donner la parole donc à des enseignants et à des professeurs. Et après avoir donné la parole à Carole sur la littérature jeunesse et la transmission des enjeux de la nature auprès des enfants, dans cet épisode, nous allons voir la transmission auprès d'élèves du collège et du lycée. Nous allons écouter ainsi une professeure de sciences et vie de la Terre et un professeur d'histoire-géographie ainsi qu'une institutrice en petite section dans leur pratique et leur expérience d'enseignement. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous trouverez toutes les références nécessaires dans la barre d'infos et sur le blog du carnet Hypothèse histoire-nat.com. hypothèse.org. Et si vous voulez participer à ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail fournie dans la barre d'infos.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Charles, je suis professeur agrégé d'histoire, j'enseigne en collège et je suis aussi doctorant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour une thèse sur la Première Guerre mondiale et les relations interpersonnelles entre les soldats allemands qui occupent le Nord et les Ardennes et donc relations avec les civils qui sont eux occupés. Je suis aussi animateur de deux podcasts, le premier pour l'APAG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie qui s'intitule Bref de classe, podcast qui a pour but de faire présenter à un universitaire spécialiste d'une question un point précis du programme et donc de le développer pour que les collègues du secondaire puissent l'enseigner. Et puis le deuxième podcast s'appelle Histoire en série. C'est un podcast qui a pour but de faire se joindre les sciences humaines aux séries, c'est-à-dire qu'on invite un universitaire en histoire, en géographie, en sciences de la communication, en cinéma, en littérature, dans toutes les sciences humaines, et il vient présenter une série ou une émission thématique. Donc c'est un podcast qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Pour plus d'informations, j'y reviendrai plus tard pour présenter aussi le rapport à la nature, mais pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site histoireensérie.com. Alors, en tant qu'enseignant d'histoire et de géographie, la nature, c'est quelque chose qui est relativement présent dans nos matières. Alors bien sûr, plus facilement en géographie, et c'est vrai que on peut à différents moments, je vais parler surtout du secondaire, que ce soit du collège ou au lycée, on a des chapitres de géographie qui évoquent la nature. Alors ce soit autour des thématiques du développement durable par exemple, hein, comme on peut le voir dans le programme de 5e, mais aussi en 4e ou en terminale avec la problématique des mers et océans qui sont abordés bien sûr comme un support de flux, c'est-à-dire comme quelque chose qui permet un transport de marchandises avec bien sûr les bateaux, mais aussi en tant que ressource qui permet de produire avec la pêche et aussi qui permet d'extraire des choses, donc notamment avec les plateformes offshore de gaz et de pétrole, et donc ces choses-là, on le voit très bien en géographie, parce que le rapport à la nature est relativement présent, j'allais dire quasiment dans toutes les classes du secondaire, hein, puisque par exemple en 3e, quand on évoque les espaces de faible densité, on a bien sûr la campagne qui est au cœur de ces problématiques-là, et dans la campagne on a le rapport à la nature avec l'agriculture, on peut évoquer avec les élèves un certain nombre de choses intéressantes comme le rapport à la production, à la protection de la nature, au fait que l'agriculteur est quelqu'un qui modèle un paysage, et puis c'est le moment aussi d'introduire les notions de préservation de la nature avec les parcs naturels, donc nationaux ou naturels régionaux, qui sont aussi un outil à la fois de protection et de mise en valeur de la nature, en montrant aux élèves que ça peut être un levier pour véritablement aussi attirer dans un espace faiblement peuplé des touristes qui viennent pour pratiquer un tourisme que l'on qualifie de vert, c'est-à-dire un rapport avec la nature. Donc ces biais-là, on les retrouve véritablement, hein, la nature dans beaucoup beaucoup d'aspects des programmes du secondaire, avec bien sûr depuis quelques années une large mise en avant du développement durable, avec des thématiques qui sont entre plusieurs matières, notamment les SVT bien sûr, autour de l'enseignement de ce développement durable, de l'éducation au développement durable, qui a été mise en avant depuis les années 2010 environ et qui se pratique régulièrement au niveau des collègues. D'ailleurs, on a à travers un collège, ce qu'on appelle les EPI, une idée où on peut travailler à plusieurs collègues, j'y reviendrai un peu plus tard, notamment avec bien sûr le collègue de SVT, mais pas que, on peut faire ça aussi avec une mise en avant de la nature, avec le professeur d'art plastique par exemple, pour réaliser tout ce travail. Alors en histoire, la nature est aussi présente depuis la sixième, j'allais dire, avec l'apparition de l'agriculture et le fait que petit à petit les hommes passent de la préhistoire à l'histoire avec notamment bien sûr l'agriculture, et on retrouve cela notamment au Moyen-Âge quand on parle des défrichements par exemple de la campagne, de son exploitation par les paysans. On le voit régulièrement en filigrane, j'allais dire. C'est pas une notion qui est véritablement au cœur des programmes d'histoire. Alors on peut y revenir à un autre moment particulier, par exemple je pensais au cours de du chapitre de 4e sur l'industrialisation, où là on va évoquer l'exploitation de la nature avec l'extraction notamment du charbon, et aussi avec les élèves on peut commencer à faire se questionner autour de la destruction et de la pollution, puisque à travers de nombreux tableaux où on voit la fumée, de témoignages où on voit la fumée, où on voit la noirceur, on peut aussi utiliser des films, j'y reviendrai un peu plus tard, comme Germinal par exemple, on voit bien la noirceur des paysages où l'exploitation humaine a transformé véritablement la nature, et ça c'est un biais essentiel à montrer aux élèves. Et ce moment-là de l'industrialisation au 19e siècle est très important, et je renverrai aussi les collègues qui voudraient aller plus loin aux travaux récents de l'historien François Jarige, avec lequel j'ai animé un épisode de Bref de classe, le 10e, vous pouvez le trouver sur le site apag.fr. Vous avez dessus ce rapport à la destruction de la nature qui est relativement ancien, et déjà dès l'époque des gens se rendaient compte de cela. Donc ça, on doit le montrer aux élèves. Et puis dans le cadre des programmes, que ce soit d'ailleurs de troisième ou de terminale, on a véritablement plusieurs moments importants autour de la nature. Alors bien sûr celui des 30 glorieuses est essentiel, puisque celui de cette production intensive basée sur des énergies carbonées permet de montrer aux élèves à la fois l'apparition de la société de consommation ou de surconsommation d'ailleurs, et donc de montrer aussi ces limites qui sont atteintes avec les crises pétrolières, et puis aujourd'hui avec ce qu'on a, donc arrivé au développement durable. Et je reviens un petit peu à la géographie, où justement les problématiques de développement, de destruction de certains espaces qu'on peut vivre dans certains pays en développement d'Afrique ou d'Asie, et du coup une nature qui souffre par rapport à ça, c'est vraiment des choses que l'on est censé montrer aux élèves et qui marquent les élèves. Alors ça dépend aussi des pratiques que l'on peut avoir et du support que l'on utilise. Au niveau des supports, une chose est vraiment importante à montrer, c'est bien sûr l'image, qu'elle soit figée, comme une photographie, c'est quelque chose qui témoigne facilement et qui parle aux élèves. Mais ce qui parle encore plus, c'est l'image animée, c'est-à-dire qu'elle soit documentaire ou qu'elle soit fiction, à travers les films, j'évoquais tout à l'heure Germinal, mais ça peut être aussi une image autour du phénomène sériel, de série télévisée. Et là, on a des choses très intéressantes. Alors, je mets un parallèle avec ce que je produis dans Histoire en série. Dans l'épisode numéro 66, José Provençal, qui est une docteure en sciences politiques spécialisée dans l'environnement, a fait la présentation de la série Occupied, qui est une dystopie sur l'occupation de la Norvège par la Russie, parce que la Norvège voulait arrêter la production de pétrole et de gaz offshore, et donc se consacrer uniquement aux énergies renouvelables. Et donc là, on voit bien que la production énergétique est essentielle dans nos sociétés contemporaines et est un véritable enjeu géopolitique. Et ça, on a essayé de le montrer. Voilà, à travers ça. Donc ça, à travers la série, on peut présenter tout ça aux élèves, hein, ces destructions, ces enjeux géopolitiques, tout ça, ça fonctionne très très bien. Alors j'aimerais revenir quelques instants maintenant sur des pratiques pédagogiques qu'on peut faire autour de la nature. Alors je parlais tout à l'heure de ces fameux EPI, hein, de ces enseignements interdisciplinaires qui permettent notamment à l'enseignant d'histoire et surtout de géographie donc de travailler en collège avec d'autres collègues, alors que ce soit ici en français, en art plastique et surtout avec les SVT, on peut arriver à faire des choses. Alors moi, ça m'est arrivé avec mes élèves de collège et mon collègue de SVT d'aller pratiquer. Alors ça, c'était à l'époque de l'ancien programme, avant 2016, ce qu'on appelait une sortie pédagogique pour aller étudier l'espace proche du collège. Alors on est dans un collège, rural, donc on avait une vraie relation à la nature avec cette idée de travailler sur le paysage qui nous entourait, hein, depuis la classe. Qu'est-ce qu'on voyait? Qu'est-ce qu'on voit depuis la cour? Qu'est-ce qu'on voit en sortant du collège, et ça permettait de mettre en avant ce que nous on utilise en histoire géographie qui s'intitule le croquis de paysage, c'est-à-dire voir qu'est-ce que l'élève, comment l'élève voit le paysage et comment il l'interprète, et donc à partir de là voir l'importance de la nature, puisque dans un espace rural la nature est quand même assez prédominante, donc ça c'est intéressant. Et du coup l'année suivante la sortie se faisait dans un espace un peu plus large qui était dans le cadre du programme de géologie des SVT, où le prof d'histoire était là aussi pour apporter à la fois un repère géographique à travers l'étude de cartes notamment, et donc à travers cette sortie là ça permettait aux élèves de se rendre compte de l'importance à la fois de la nature dans leur espace qui leur est connu et pratiqué quotidien, j'allais dire, et puis voir le rapport au temps, hein, c'est-à-dire sur la longue durée, la très longue durée, et donc à travers cela, on regardait de la géologie à l'étude patrimoniale de ce qu'on voyait, donc de l'occupation humaine dans ces espaces-là, et on arrivait jusqu'à aujourd'hui avec des matériaux notamment de construction qui ont été pris localement, qui permettaient d'utiliser pour notamment couvrir les maisons avec de l'ardoise ou construire en ardoise, comme c'est le cas dans l'espace où j'enseigne, dans les Ardennes. Alors, autre chose aussi, ça c'est dans le cadre d'une vraie sortie pédagogique, d'un voyage pédagogique à l'étranger, on amène nos élèves de collège de 6e ou de 5e en Italie tous les ans, dans le cadre bien sûr des programmes d'histoire de 6e autour de l'Empire romain notamment, mais aussi de 5e avec les notions de Moyen-Âge, et le professeur de SVT est là chaque année, puisque on essaie d'y mêler à la fois des études de paysage et des études liées au programme des SVT, notamment en géologie encore. Alors par exemple la sortie l'année où on va en baie de Naples bien sûr pour voir les grands sites archéologiques comme Pompéi, comme Herculanum, on mêle cela avec une étude du volcanisme avec à travers le Vésuve, mais aussi le site de la Solfatare par exemple, et donc ça permet d'appréhender pour les élèves les liens qu'il y a entre histoire et nature, et de voir justement comment les conséquences ici d'une catastrophe naturelle, l'éruption volcanique a permis, a provoqué plutôt, pardon, la destruction de sites majeurs à l'époque, très importants comme Pompéi et Herculanum, et de voir comment aujourd'hui ces sites-là ont été à la fois détruits mais aussi préservés par la nature avec la lave, et donc on a ce rapport-là avec aussi la présence humaine toujours dans ces sites-là, qui permet de comprendre la notion de risque naturel, et ça c'est très important en voyant bien aujourd'hui comment s'il y avait une nouvelle éruption, ça pourrait être vite rapidement une catastrophe du fait de l'implantation humaine sur à proximité des volcans. Alors voilà, ça c'est un exemple d'une année. Quand une autre année, puisqu'on essaie de varier les sites visités en Italie, quand une autre année on est plutôt dans le nord, donc plutôt dans la région vénitienne. Le collègue de SVT est aussi là parce qu'il montre le rapport à la nature à Venise avec la lagune, c'est-à-dire à la fois l'idée que l'implantation humaine dans la lagune s'est faite à une période où il fallait se protéger notamment des risques d'attaques ennemies, donc avec cette idée de peuplement de la lagune, et puis comment la lagune petit à petit est devenue un garde-manger de à travers le poisson que l'on peut y pêcher, notamment pour les habitants de Venise. Voilà, on a ce rapport-là qui est important, même si c'est pas le but essentiel du voyage, c'est d'aller voir Venise et de comprendre l'histoire de cette cité qui a dominé en partie le monde méditerranéen, au Moyen-Âge. On a quand même l'étude du site qui est majeure et qui est très importante. Et je terminerai sur les voyages scolaires avec, par exemple, Rome. On a aussi l'idée de l'importance de la nature à Rome, ne serait-ce qu'avec autour des mythes. Et ça, la nature et les mythes, c'est des choses qui sont très liées, avec notamment l'histoire des sept collines, de la création de Rome. Voilà. Donc, on peut, en histoire et géographie, sans aucun problème, mêler histoire et nature. C'est des biais qui sont très très travaillés. Il y a un vrai, aujourd'hui, champ historique autour de ces études-là. Et je renvoie d'ailleurs ces études de l'environnement aux travaux notamment de Stéphane Friou, qui est président de ce qu'on appelle le RUCHE. C'est le réseau de recherche universitaire autour de l'environnement, avec Emiliane Pépi aussi qui travaille dessus, François Jarige que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce sont des gens qui étudient ces phénomènes-là sur une certaine durée et qui montre véritablement à la fois les relations d'interdépendance entre homme et nature et aussi comment l'homme, en modelant le paysage, modifie la nature. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et j'espère avoir réussi à vous présenter voilà ce que comment moi, Nicolas Charles, enseignant en histoire et géographie, j'arrive avec mes élèves de collège à travailler sur ces phénomènes-là et puis aussi à travers mon podcast Histoire en série, comment on peut voir certains biais autour de la nature.
Alors, je m'appelle Camille Magret, je suis enseignante en collège et au lycée depuis du coup 2018 en sciences de la vie et de la terre. Je suis propriétaire de la chaîne YouTube donc Madame SVT sur laquelle je publie des vidéos pour aider mes élèves et d'ailleurs tous ceux qui en ont besoin à réviser leurs cours de SVT. Et je tiens aussi le compte Instagram donc Madame SVT grâce auquel je partage du mieux que je peux la passion de mon métier même si bon, il n'y a pas que ça, hein. Je donne aussi des conseils d'orientation, des astuces écolo. Puis j'essaie de partager au maximum les valeurs qui me tiennent à cœur. Pourquoi j'ai choisi cette discipline? En fait, simplement parce qu'elle me passionne. Quand j'ai eu mon bac, je devais choisir mon orientation. Je savais pas trop où j'allais. C'était évident pour moi qu'il fallait que je fasse de la science. Bon, pas de la physique ni des maths parce que c'était pas trop mon truc. Mais plutôt de la SVT. Je savais pas trop encore dans quel cadre j'allais faire la SVT. Ni dans le cadre de quel métier en tout cas. Et surtout, je voulais pas être enfermée dans un labo. Donc j'ai fait des études à la base pour travailler en laboratoire. Et ça m'a pas beaucoup plu. Et c'est pour ça que je suis partie pour être prof. Donc rester au contact des gens, de bouger tout le temps, faire quelque chose de différent tous les jours. Tout en faisant de la SVT, c'était vraiment le combo parfait pour moi. Et en fait, j'adore la SVT pour la simple raison que ça explique et ça donne un sens à tout en fait ce qui nous entoure. Les nuages, la médecine, les paysages, tout. Où qu'on soit... on est forcément entouré de choses qui sont en lien avec les SVT et je trouve ça génial. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette discipline. Alors aujourd'hui, on a énormément d'outils qui nous permettent de ne pas utiliser les manuels scolaires, bien que évidemment, ces manuels scolaires ils nous sauvent quand même la vie de temps en temps, hein, parce que tout n'est pas propice non plus à des manipulations ou autres. Donc évidemment, on a besoin des manuels scolaires. En SVT surtout, en fait, on a beaucoup de logiciels qui sont à notre disposition. Ça va peut-être pas vous parler, mais par exemple Tectoglobe, c'est un logiciel qui permet d'observer la répartition des volcans, des séismes à la surface de la Terre. On a EduAnatomist aussi qui permet de réaliser des IRM virtuels et explorer l'activité du cerveau. Voilà, par exemple, pour que vraiment les élèves puissent travailler sur ces logiciels, c'est vraiment génial. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, donc j'en passe beaucoup. On a aussi la possibilité de faire beaucoup d'expériences. En SVT, c'est vraiment... top pour ça, on peut faire plein de manips pour illustrer en fait de façon la plus concrète possible les phénomènes scientifiques sur lesquels on travaille. Et en fait, le but de tout ça, ça va être de mettre les élèves dans la peau d'apprentis scientifiques et de les amener à se poser des questions sur le monde qui les entoure. C'est vraiment le but principal de notre discipline et de l'école en général, hein, c'est de que les élèves se posent des questions et donc, de leur apprendre à réfléchir. Et en SVT, c'est vraiment sur tout ce qui est phénomène scientifique. Donc moi, personnellement, j'évite au maximum les documents papier, même si évidemment, ils sont nécessaires, comme je disais. On a évidemment besoin des manuels scolaires parce que extraire des informations d'un document, ça reste une compétence indispensable qui fait partie du programme scolaire, donc il faut absolument qu'on les travaille. Mais j'essaie de diversifier au maximum, et dans ce cas-là, tous les moyens sont bons. Logiciels, manipulation, jeux pédagogiques, capsules vidéo, comme je vais faire sur YouTube par exemple, réalisation d'affiches de prévention, comme on peut faire par exemple sur le sida, discussions entre nous, débats par exemple sur... certains phénomènes scientifiques qui ont posé question à l'époque, par exemple la théorie cellulaire ou la dérive des continents. On essaie de mettre en place des scénarios pour faire des débats scientifiques, etc. On essaie de varier le plus possible. Je pense que s'il n'y a pas que SVT, il n'y a sûrement pas que moi, parce que je sais que dans l'éducation nationale, on essaye de faire au maximum des choses qui changent pour essayer de que ce soit le plus percutant possible pour les élèves. Et en plus, on a de plus en plus d'élèves qui sont dyslexiques ou dyspraxiques ou voilà, qui ont des difficultés avec les supports papier et qui ont besoin en fait qu'on varie au maximum tout ce qu'on fait, les supports qu'on va utiliser, quoi. Donc j'essaye de varier en tout cas au maximum tout ce qu'on peut utiliser pour que chacun puisse s'y retrouver, les élèves scolaires, les élèves moins scolaires, les élèves dyslexiques et au contraire ceux qui n'ont pas de soucis particuliers, pour que tout le monde puisse réussir en fait. Le but de l'école, c'est d'essayer d'être le plus divers possible pour que tous les élèves, tous les types, avec plein de guillemets, d'élèves puissent s'y retrouver et réussir. C'est vraiment l'objectif. Alors oui, au programme de seconde, on retrouve pas mal de notions de biodiversité et d'évolution. Des paysages en fait au cours du temps, donc ça fait vraiment partie. Il y a trois thèmes en seconde. Il y a le thème 1 qui est donc sur la vie et l'évolution du vivant, le thème 2 qui va être sur tout enjeu planétaire contemporain, donc évolution des paysages, énergie renouvelable, etc. Et le thème 3 qui va être plus sur le corps humain et la santé. Et du coup, on a groupé la partie biodiversité qu'on trouve dans le thème 1 et la partie évolution des paysages qu'on trouve au contraire dans le thème 2 pour faire une sortie. Donc on va en bord de mer, avec mes collègues on a décidé ça, d'aller en bord de mer pour observer la biodiversité. Par exemple, dans ce cas-là, les élèves vont étudier donc, les espèces, que ce soit végétales ou animales, donc les algues ou les bigorneaux par exemple, qu'on va trouver très proche de la mer, sur la partie basse de la plage, ou au contraire les espèces animales et végétales qu'on va trouver plutôt en haute plage, donc... Sur l'herbe par exemple, voilà. Donc le but, ça va être d'étudier cette biodiversité, se rendre compte que sur une petite échelle, donc juste sur l'échelle d'une plage, on a énormément d'espèces différentes, que ce soit animales ou végétales, voilà. Donc c'est vraiment pour étudier cette biodiversité là et l'évolution aussi des paysages, donc parce que du coup on leur explique bien que la plage qu'on voit aujourd'hui, c'était pas la même il y a 1000 ans, ça sera pas la même dans 1000 ans. Et du coup, on essaie vraiment de revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, d'amener les élèves à se poser des questions sur le monde qui les entoure. C'est vraiment l'objectif. Enseigner les SVT, c'est ça en fait. C'est amener les élèves à se poser des questions et à observer le monde qui les entoure. Donc observer et se poser des questions dessus. Donc en allant sur le terrain, en fait, on leur montre que ce qu'on voit en classe, ils peuvent l'appliquer près de chez eux, en allant se promener, en allant à la plage, en allant en forêt ou n'importe où. Et que... voilà, ça s'applique, il faut qu'ils se posent des questions de la même façon qu'on se pose des questions en classe. Et le but de la sortie, c'est la même chose que les jeux, c'est la même chose que les différentes manipulations qu'on peut faire en classe, c'est du concret, quoi, le maximum, du concret, du concret, du concret. Alors oui, l'écologie et la protection de l'environnement, ça fait vraiment partie intégrante des programmes scolaires. C'est vraiment inscrit dans le bulletin officiel, que ce soit en SVT, mais aussi de façon transversale sur les autres disciplines. Donc chaque année, de la 6e à la terme, on a un moment ou un autre. On parle de la biodiversité, de l'impact des activités humaines sur l'environnement et sur cette biodiversité, de la protection des espèces, etc. Donc il y a plein de projets possibles. Il y en a un, par exemple, qui me vient en tête. Dans mon établissement, on fait une sortie « Nettoyons la nature ». En classe de 4e en début d'année. Donc c'est leur journée d'intégration en fait au 4e. On les amène sur une plage, donc j'ai la chance d'habiter près de la mer. On les amène sur une plage pour qu'ils nettoient la nature. On les met en valeur au maximum et on leur explique l'importance en fait de ce genre de projet. Voilà. Et donc tu me demandes si les programmes me laissent une large marge de manœuvre. En fait, les programmes nous indiquent les notions et les compétences à travailler avec les élèves. Donc évidemment, on a des obligations et des choses qu'il faut qu'on respecte et qu'il faut qu'on leur enseigne. Hein. Évidemment, c'est obligatoire. Donc ces notions et ces compétences, si elles sont inscrites au bulletin officiel, il faut qu'on les traite, en fait, c'est obligatoire. Après, on a quand même une marge de manœuvre qu'on appelle en fait la liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'on a le choix du temps qu'on va passer sur telle ou telle notion. Si on approfondit plus cette notion qu'une autre, par exemple, on a le choix de mettre en place tel ou tel projet, si évidemment on a l'aval de notre chef d'établissement, etc., hein, bien sûr. Mais voilà, on a quand même cette possibilité de traiter plus longuement une notion, ou plus d'approfondir davantage certains chapitres, ou de faire tel ou tel projet. Moi, personnellement, je suis très très sensible au sujet de l'écologie. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit sur ma chaîne YouTube et sur mon compte. Et c'est vrai que c'est génial parce que mon métier me permet, en fait, d'éduquer, parce que je pense que le meilleur moyen, entre guillemets, d'améliorer toutes ces histoires d'écologie, c'est d'éduquer les futures générations et nos futurs, en fait, citoyens. Et moi, c'est un peu mon boulot, ça fait partie de mon boulot, c'est de leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, et notamment sur cette notion d'écologie. Leur faire prendre conscience des choses pour qu'ils puissent agir en conséquence ensuite, et c'est vrai que c'est génial pour ça, et j'utilise beaucoup mon compte Instagram en fait pour essayer de tendre vers cet objectif là, de les éduquer au maximum à l'écologie. Donc on appelle ça nous l'éducation au développement durable, le E2D, c'est éducation au développement durable, ça fait vraiment partie des programmes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions.
Bonjour, je m'appelle Florence, je suis enseignante en maternelle dans une petite école des quartiers nord de Marseille, une école dite Ré+, où j'ai des petits moyens depuis 5 ans maintenant. C'est un peu compliqué de parler de nature avec les enfants, justement à cause de cette absence de nature. On peut leur en parler avec des livres, des vidéos, des images, mais il manque le rapport direct de dire « voilà, ça c'est une fleur, tenez, vous pouvez la toucher, la sentir, la caresser ». Un classique sinon sont les plantations en classe. Alors souvent on fait du blé au moment des fêtes de fin d'année de Noël, c'est un peu la tradition provençale. C'est tout bête à faire, on met du blé dans du coton, dans un petit pot, on met de l'eau, on observe pousser, on regarde, et puis ah, c'est des tiges, ah, c'est vert, ah, c'est devenu de plus en plus grand. Ça marche bien, alors c'est vrai que ça marche parce qu'il y a une évolution qui est rapide. Après, ça sensibilise, oui, à la nature qui change, qui grandit et qui vaut la peine d'être observée. Ça va pas beaucoup plus loin. Honnêtement, on le fait un peu par tradition, par habitude, parce que ça plaît, que c'est pas très difficile à mettre en place. Avant d'arriver dans l'école où je suis actuellement, j'avais l'habitude de sortir avec mes élèves, soit dans la cour de récréation, soit aux abords de l'école, pour observer les arbres qui étaient à disposition. Donc je leur demandais de les regarder, de voir ce qui avait changé par rapport à la fois précédente, de les dessiner pour garder une trace. On les prenait en photo aussi, pour essayer de voir le cycle des saisons, les arbres qui se couvraient de feuilles, qui perdaient leurs feuilles, etc. Là, c'est vrai que je ne peux plus le faire, puisque je n'ai pas d'arbres à disposition. Bon, voilà. Le projet est tombé à l'eau, faute de matériel à portée de main. Mais c'est quelque chose que je referais volontiers si jamais j'en ai de nouveau l'occasion. Parce que c'était très chouette, ça marchait bien. Le dessin d'observation était compliqué avec des petits, mais les photos marchaient bien. Ils étaient contents, puis aller d'un arbre à un arbre, le toucher, le regarder. Il y avait une sorte de relation entre eux. C'était vraiment chouette. C'est compliqué de parler de nature avec les enfants quand on n'a pas vraiment d'exemple à leur donner, à leur montrer, à part des supports sur images, sur vidéos. On a une plante dans ma classe. Depuis 2-3 mois, une plante grasse dont j'ignore le nom, mais qui a eu beaucoup de succès à son arrivée. Les enfants avaient beaucoup de questions à son sujet, savoir comment elle s'appelait, si elle allait grandir, si elle allait toucher le plafond, etc. L'intérêt s'est un peu tassé au fur et à mesure, mais ils sont quand même contents de la voir, de la voir grandir, d'en prendre soin. Ça ne compense pas tout, mais on fait avec ce qu'on a, et je les sens vraiment intéressés. C'est quelque chose qui les attire, les animaux, les plantes, la météo aussi, tout simplement, voir les nuages, la couleur du ciel, la pluie, les oiseaux qui volent. Et ça manque de pas avoir de quoi faire, nourrir leur curiosité, leur dire voilà, ça c'est telle plante, ça c'est telle fleur, elle va pousser, on va la regarder, on va faire des plantations, on va prendre des graines, etc. C'est vraiment dommage. La nature n'est pas très présente dans le quartier où je travaille, ni dans le quartier, ni dans l'école. Donc mon école a une particularité, c'est d'avoir une cour de récréation minuscule, encadrée de 4 murs très hauts, où le soleil ne passe pas vraiment. Et la cour étant toute petite, on n'a ni arbres, ni plantations, ni verdure. C'est quelque chose qu'on regrette, mes collègues et moi, et que les enfants regrettent aussi. Les jours de grand vent, quand il y a des feuilles qui arrivent jusque dans la cour, ils sont ravis, ils récupèrent toutes les feuilles qu'ils peuvent trouver, en font des bouquets pour nous les offrir. Ils sont ravis, mais c'est vraiment quelque chose qui nous manque et on regrette de ne pas avoir la chance de pouvoir pousser les murs et mettre un peu de plantes, de fleurs, etc. Ça serait beaucoup plus joyeux, beaucoup plus beau. Et malheureusement, on fait que ce qu'on a. La nature, c'est très vaste comme sujet, et la plupart du temps, en maternelle, on travaille les animaux plus que le monde végétal. Parce que c'est plus facile, on a des figurines d'animaux, des petits jouets, on en trouve beaucoup en littérature jeunesse aussi, avec toutes sortes d'animaux de toutes sortes de pays. Alors que les végétaux, c'est plus compliqué à exploiter, à expliquer. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc des ouvrages de référence, j'aurais pas grand chose à proposer. Il y en a un qui marche bien, que j'ai retravaillé cette année avec mes élèves et que j'avais acheté il y a quelques années. Ça s'appelle « Irène la graine » de Benoît Charlat chez Sarbacane. C'est l'histoire d'une petite graine qu'on plante au début de l'album. Et de page en page, où on rajoute de l'eau, on donne à manger, elle se lave, etc. Et à la fin, oh, mystère, elle est devenue une grande et belle fleur, donc on l'applaudit. C'est très simple, c'est à destination devant des tout-petits. Là, avec mes petits moyens, ça a bien marché. Ils étaient ravis d'applaudir à la fin, découvrir la belle fleur qui est devenue une graine. Alors, ça prend quelques libertés, même beaucoup de libertés, ce qui se passe réellement dans la nature. Mais ça donne déjà une idée du fait qu'une graine, ça a besoin de nourriture, de lumière, d'eau, etc. pour grandir. Et j'avais présenté l'album en même temps j'avais apporté la plante dans la classe. Donc les deux étaient arrivés en même temps et ça les a amenés à prendre conscience que notre plante, pour grandir, pour être belle et pour rester en forme, elle aurait elle aussi besoin de manger avec la terre, d'eau, avec de l'eau qu'on a lui donné, de soleil. Et ça leur est resté. Alors l'album en lui-même, je suis pas sûre, mais ce qui avait le contenu de l'album leur est resté. Ils m'en ont pas reparlé, mais ils l'ont appliqué sur la plante et font très attention par rapport à ça. Les enfants sont très sensibles à la nature, aux plantes, aux fleurs, et c'est quelque chose qui me manque d'autant plus que je sais que ça leur plaît, que ça les passionne. Dans mes présentes écoles, il y avait toujours un coin d'herbe, un coin de verdure, des fleurs qui poussaient, des mauvaises herbes, n'importe quoi, et c'est toujours quelque chose qui les attire. Il y avait toujours des enfants dans ce coin-là, qu'il fallait qu'on rappelle à l'autre parce qu'ils étaient en train de gratouiller, d'enlever la terre, de déterrer ce qu'ils pouvaient trouver, des plantes, des racines, des bestioles, des insectes, n'importe quoi, et c'était le coin des trésors. C'est vrai que ça, c'est une grosse différence entre mon école qui est très urbaine et des écoles qui seront à la campagne, où il y aura de la place, de l'espace, la possibilité d'avoir des poules, un bac de compost, n'importe quoi, et où les enfants pourront expérimenter, découvrir, se tester plein de choses, découvrir plein de choses. Nous, on est très limités et je le regrette. Du coup, ça a aussi un impact par rapport à leur conscience écologique. On a un gros souci dans l'école, dans le quartier, sur le recyclage, le tri des déchets, le fait de jeter ses papiers, ses emballages par terre. Quand c'est 4h30, il y a beaucoup d'enfants encore qui sont récupérés par leurs parents avec des emballages de gâteaux, de biscuits et qui les jettent sur le chemin entre l'école et la maison, voire dans la cour de l'école, dans les escaliers, etc. C'est en train de se tasser parce qu'on le dit, on le répète, on insiste énormément. Mais je pense qu'ils sont moins concernés parce qu'ils voient pas... Enfin, il y a que du béton, du goudron, et que du coup, quand on leur dit bah, « ça va aller dans les plantes, ça va les empêcher de respirer, ça va... » Pauvres petits animaux, bon, bah, s'il n'y a pas d'animaux, pas de plantes, ça a moins de portée de les mettre en garde. Et voilà, c'est vraiment un gros regret. C'est vrai que j'y pense déjà depuis un petit moment, le fait d'en parler, je le mets en mots. Mais je regrette vraiment cette ouverture sur la nature, sur le monde. Et voilà, ça serait chouette d'avoir des plantes. Malheureusement, on ne peut pas les faire pousser sur du béton et sur des surfaces où il n'y a pas d'eau, pas de lumière, pas de terre, etc. Parce que bon, c'est ce dont les plantes ont besoin. Et les animaux, n'en parlons pas. Parce que notre cour étant tellement, tellement petite, on n'arrive déjà pas à avoir un bac de fleurs. Alors avoir des animaux, ça serait mission impossible. D'ailleurs, j'ai même pas parlé des animaux dans les classes parce que je sais que ce ne serait pas des conditions viables pour eux. J'avais envisagé de le faire quelques années, un projet. Et en maternelle, avec des enfants surexcités, qui seraient... Voilà, j'aurais voulu avoir un petit cochon d'Inde, quelque chose comme ça. Je me suis dit que le pauvre animal qui serait là, sur qui on taperait sur la cage en permanence pour le réveiller, pour le regarder, pour jouer, etc., ça serait vraiment pas une vie. Je sais qu'il y a des écoles qui ont des poules. C'est un projet que j'ai vu dans 2-3 écoles, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui le font. Ça marche bien. C'est pour observer les poules, récupérer les œufs, les voir évoluer, grandir, passer des poussins aux poules. Ce qui se fait, ça peut être l'élevage de phasmes, ou si ça marche bien, bon ça je l'ai jamais fait, j'ai pas eu l'occasion. J'ai fait de l'élevage d'escargots, si voilà, j'avais oublié. C'est pas très passionnant à faire, ça a jamais abouti en plus, mais ça marche bien. Donc j'avais une sorte de terrarium avec de la terre, des gros escargots de Bourgogne qui étaient à l'intérieur, qui rampaient sur les parois, après on voyait plus rien tellement il y avait de la bave, c'était assez horrible. Mais ça les fascine et j'aimerais bien le refaire cette année. J'ai pas eu l'occasion l'an dernier à cause du confinement qui a arrêté beaucoup beaucoup de choses. Mais j'avais des élèves fascinés par les animaux et le monde animal. Cette année, mes élèves ont vu le terrarium et étaient là « Oh, c'est une boîte pour les escargots, on veut des escargots !» Bon, d'accord, très bien. Donc je vais attendre le printemps. Je vais aller récupérer des escargots dans le jardin qui est près de chez moi, c'est bon. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit coin de verdure et avec des escargots. Et j'espère que ça leur fera plaisir de les voir ramper, de les dessiner, de les observer. Et avec un peu de chance, avoir des œufs. Ça serait la super bonne surprise si on arrive jusque-là. J'ai jamais... Les escargots, en général, restent en vie, mais ne font pas d'œufs ou des œufs qui n'éclosent pas. Donc, ça, c'est dommage. Mais voilà, c'est mon petit projet. On n'a pas de nature dans mon école, donc on va essayer de la faire venir comme on peut. Voilà.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je remercie Camille, Florence et Nicolas Charles pour leur contribution à ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Histoire Naturelle.